C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir?
The Cure? J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Bonsoir.
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 Bonsoir. C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi. Bonsoir.
Bonsoir.
Il est... Mon micro ne marche pas.
Ah, le mien marche.
Il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, on va parler quoi ?
Ah, dis donc, Aube Dorée est officiellement une organisation criminelle depuis aujourd'hui.
1 million de personnes de plus passent le seuil de pauvreté.
Magistrat, magistrate, avocat, avocate et ministre, le bal des enflures, c'est le titre d'un petit entretien qu'on a eu avec quelqu'un qui comprend un peu mieux que nous les arcanes de la justice française.
Ensuite, la Quadrature du Net et d'autres associations nous offrent une défaite victorieuse sur la surveillance sur Internet.
Réduction de 60% des gaz à effet de serre dans 10 ans, voilà.
Ensuite, on aura une petite pause musicale et on retrouvera ces infos avec la police qui protège l'affichage illégal.
Oui, vous allez voir, c'est une bonne mini-histoire. Ensuite... Ah, pardon. Et puis ensuite, ça sera l'heure de « Il faut que ça se sache ». Avec inquiétude du côté de la vallée de la Roya suite au passage de la tempête Alex, vallée de la Roya dont nous, on a parlé un paquet de fois dans les dernières années.
Et qui est souvent dans la rubrique « Il faut que ça se sache ».
Mais qui a fait les titres dernièrement pour d'autres histoires, mais qui sont en lien les unes avec les autres.
Et ensuite, on finira ces infos par une information locale, puisqu'il y a des contrôles et intimidations policières au collège sans frontières Maurice Sève. Voilà, on aura leur
communiqué de presse. Ça se passe à la Croix-Rousse et ça se passe avant-hier.
Et on va parler de Kamel Daoudi. On en a parlé la semaine dernière et là c'est lundi, le tribunal de Riyad qui a rendu son verdict et qui a renvoyé pour 1 an au trou Kamel Daoudi pour un retard de 30 minutes sur son couvre-feu. Alors on rappelle très brièvement les faits. Vendredi 25 septembre, alors qu'il finissait de préparer des falafels pour une soirée karaoké dans un bar associatif de Riyad, les gendarmes viennent le cueillir à 21h30, soit 30 minutes après son couvre-feu. Alors, comme je l'ai déjà dit, on ne va donc pas rentrer dans les détails, mais Kamel Daoudi est assigné à résidence depuis maintenant 12 ans, ce qui en fait le plus long assigné à résidence de France, et sans aucune perspective de fin. Il doit pointer entre 3 et 4 fois par jour au tribunal, au commissariat, pardon. 3-4 fois par jour, ça dépend en gros un peu du moment de son assignation. C'est simplement sur arrêté du ministère de l'Intérieur. Durant ces 12 ans, il était contraint de déménager 7 fois. À chaque fois, il est prévenu du jour au lendemain, voire une demi-heure avant. Il n'a aucun moyen de contester ses décisions. Surtout ce qui concerne l'assignation, hein, pas sur ce rendu de tribunal. Il est aujourd'hui incarcéré, en tout cas à la prison de Lyon-Corba, et aux dernières nouvelles, il a été placé à l'isolement. Alors, si par hasard, son hypothétique poste de radio est branché sur Radio Canu, on lui souhaite sacrément bon courage.
Radio Canu.
102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Alors, le directeur à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, autrement appelé l'APHP, Martin Hirsch, demande aux soignants de renoncer à leur congé, hein, tout bonnement. Ils n'ont pas fait grand-chose ces derniers temps, donc ils n'ont pas besoin de congé.
Je croyais qu'il y avait des salariés qui pouvaient leur offrir des congés, mais finalement, non, ça marche pas plus cette histoire.
Toujours à la pointe un peu des ressources humaines, quoi.
Oui, et du code du travail. Alors, il affirme avoir, je cite, « l'absolue certitude que les heures supplémentaires seront payées ». Donc finalement, quand même, il maîtrise plutôt bien le code du travail.
Ah, c'est bien. C'est même incroyablement généreux de payer des heures supplémentaires.
Alors, une promesse qui en suit d'autres, hein, qui elles-mêmes n'ont pas été tenues. Les travailleurs hospitaliers devraient donc à nouveau se tuer à la tâche, sacrifier leur santé, leur vie familiale et privée. Et puis, hier, pour en rajouter une petite couche, en visite à l'hôpital Rothschild, qui fait lui aussi partie des APHP, l'hôpital Rothschild, dans lequel les services de soins sont en train d'imploser, Macron en a rajouté une louche en expliquant à des soignants, je cite, qu'il faut comprendre que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation. Il a ajouté, on ne va pas créer des postes et des lits parce que le Covid est là.
C'est impossible.
Voilà, ça c'est une citation. Hein. On ne va pas créer des postes et des lits parce que le Covid est là, c'est impossible. Culot, mépris, et puis aussi c'est aussi un terrible aveu, c'est l'aveu d'un Ségur de la Santé. Vous vous souvenez, le Ségur de la Santé, c'était il n'y a pas si longtemps. Un Ségur de la Santé qui n'a du coup pas servi à grand chose, en tout cas qui ne répond pas aux besoins exprimés de longue date par les personnels de santé, sauf s'il y a eu quand même une avancée sur les salaires prévus pour 2021. Enfin, si il n'est pas finalement décidé d'ici là de la remplacer par peut-être des formations pour mieux s'organiser. Alors du côté des usagers, il est aussi question de raquer, puisque comme se le demande faussement, naïvement le journal Le Parisien, comment désengorger les urgences et trouver le juste prix des frais d'hospitalisation? Alors, comment on peut faire? Pour y répondre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui sera présenté demain au Conseil des ministres, il est prévu dans ce projet de loi que des passages aux urgences ne nécessitant pas d'hospitalisation feront l'objet à partir de l'an prochain d'un forfait, d'un montant fixe qui remplace l'actuel ticket modérateur qui laissait à la charge du patient 20% du coût des soins. Un petit forfait pour les urgences, voilà. Cette participation, dont le montant forfaitaire devrait être défini par arrêté, tout ça est très flou, sera due pour chaque passage aux urgences dès lors que ce passage ne sera pas suivi d'une hospitalisation. Donc en clair, il s'agit plus ou moins de faire passer l'envie de se rendre aux urgences. Surtout que, évidemment, on sait toujours à l'avance si on sera hospitalisé après notre passage aux urgences. Des exceptions sont prévues pour les femmes enceintes, les malades chroniques ou encore les invalides qui seront dispensés de ce ticket modérateur, mais ils devront payer eux aussi un forfait s'ils passent aux urgences pour une fausse alerte, c'est-à-dire sans se faire hospitaliser après. Le montant de leur contribution pourra cependant être réduit par arrêté ministériel. Tout ça est bien compliqué, mais c'est une mesure qui doit aussi, selon le gouvernement, permettre de désengorger les urgences en espérant que les patients respectent davantage le parcours de soins en passant avant par la médecine de ville plutôt que de se rendre aux urgences dès l'apparition d'un petit bobo. Alors, d'ici là, il faudrait peut-être résoudre le problème des déserts médicaux et de la médecine de ville saturée, justement.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Oh là, pardon. Figurez-vous qu'aujourd'hui, quand même, cette décision un peu... je ne sais pas si elle était inattendue finalement, mais en tout cas qualifiée multiplement d'historique en Grèce, une décision de la justice grecque qui qualifie le parti Aube Dorée, vous savez, ce parti néo-nazi réellement, qui qualifie ce parti d'organisation criminelle. Il aura fallu quand même 5 années de procédure, 400 audiences, 68 accusés, 154 témoins, 129 avocats. Mais ça y est, aujourd'hui, la justice grecque a officiellement décidé que ce parti est une organisation criminelle. Alors, Nikos Michaloliakis, 62 ans, c'est le fondateur du parti, négationniste, admirateur du national-socialisme, a été reconnu coupable avec 6 autres cadres du parti de direction et appartenance à une organisation criminelle. 45 autres accusés sont reconnus coupables d'appartenance à cette organisation. Pas de verdict pour le moment, c'est-à-dire les peines n'ont pas été prononcées. Mais les décisions, ces décisions en termes de peine vont suivre et on s'attend plutôt à du lourd. En tout cas, les articles de journaux que j'ai lus s'attendent plutôt à du lourd. Toujours est-il que les accusés encourent quand même 5 à 15 ans de réclusion criminelle. Devant le tribunal, plus de 15 000 manifestants, et attention, c'est les chiffres de la police, et en Grèce, comme en France, un certain nombre de flics sont au Rassemblement National, en Grèce, un certain nombre de flics sont à Aube Dorée, donc c'est eux qui donnent ces chiffres. 15 000 manifestants s'étaient rassemblés à l'appel du mouvement antifasciste et de syndicats et de partis de gauche. Et hurlant de joie à l'énoncé du verdict au mégaphone, les manifestants ont lancé des cocktails Molotov, auxquels les forces anti-émeutes présentes en nombre ont aussitôt répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes, des canons à eau. Ça a duré une vingtaine de minutes. Bon, il fallait bien fêter la décision. Hein.
Bonne ambiance.
La Cour pénale d'Athènes a aussi reconnu Yorgos Roupakias, qui est membre de Aube Dorée, coupable du meurtre d'un rappeur antifasciste. C'était en 2013. Ce rappeur, qui était aussi militant de gauche, il s'appelait Pavlos Fissas. Il avait été assassiné à l'arme blanche en septembre 2013. Il avait 34 ans et il sortait d'un bistrot dans son quartier, dans la banlieue ouest d'Athènes. Son meurtrier, qui a reconnu l'avoir tué, risque la prison à perpétuité, ça n'a rien de très fou hein, pour un assassinat. Sa peine n'a pas non plus été donnée aujourd'hui. Aube Dorée était aussi jugée pour deux autres affaires, des tentatives d'homicide cette fois, impliquant elles aussi des membres du parti. Alors une fois, c'était contre des pêcheurs égyptiens, c'était en juin 2012. Et l'autre tentative d'homicide, c'était contre des membres du syndicat communiste, le PAME, c'était en septembre 2013. D'après Le Monde, le procès aurait entraîné un déclin du parti. Alors nous ici, on a quand même un peu régulièrement des infos qui parlent de violences commises par des gens qui se revendiquent de ce parti, même des infos relativement récentes. Alors je ne sais pas trop ce qu'il en est de la réalité de la popularité de Aube Dorée aujourd'hui en Grèce. Mais il semble quand même, enfin en tout cas c'est Le Monde qui dit ça et là-dessus on peut les croire, qu'aux dernières législatives en juillet 2019, Aube Dorée n'aurait obtenu aucun député. Voilà, en tout cas là, organisation criminelle. Après, ça pose plein de questions en termes de les luttes, la justice, le mouvement populaire, blablabla. Plein de questions auxquelles c'est un peu difficile de répondre. Toujours est-il que pour le rapport de force en Grèce, et Aube Dorée est quand même un sacré truc qu'il faut prendre en compte. Pour le rapport de force, le fait qu'il soit une organisation criminelle, c'est extrêmement précieux.
Canu Info. Du mercredi.
Alors on va évoquer maintenant le bilan d'une dizaine d'associations qui fait le constat accablant sur les chiffres de la pauvreté en France, puisque 1 million de personnes de plus passent le seuil de pauvreté depuis le début de l'épidémie du Covid-19. Donc c'est 1 million qui vient s'ajouter aux 9,3 millions de personnes qui vivaient déjà au-dessous du seuil officiel de pauvreté. Le seuil qui est fixé à 1063 euros par mois pour une personne seule. Le seuil officiel, hein, parce qu'on sait bien qu'il y a des personnes qui ont plus et qui n'arrivent quand même pas à vivre décemment. D'autant que si l'on croit Florent Guéguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, ce chiffre d'un million supplémentaire de pauvres est malheureusement une estimation basse, compte tenu des 800 000 pertes d'emploi attendues fin 2020. On se rappelle un peu la carte des licenciements prévue par tout un tas d'entreprises. Alors, en 8 mois, le nombre de personnes qui sont venues chercher de l'aide alimentaire a augmenté de 30%, 8 millions de personnes ayant besoin de cette aide, alors qu'elles n'étaient que 5,5 millions en 2019. Alors derrière ces statistiques, il y a des étudiants, des travailleurs précaires, des chômeurs sans indemnité, des auto-entrepreneurs, des artisans, des retraités. Enfin bref, toute une tranche de population qui n'était pas de toute façon beaucoup plus au-dessus du seuil avant le Covid, mais pour qui la situation financière est devenue franchement critique depuis. Alors l'une des conséquences de cette précarisation, selon les associations, c'est la hausse des demandes d'aide alimentaire. Le Secours Populaire a depuis mars enregistré une hausse de 45% des demandes d'aide alimentaire dans le département du Rhône, la même qu'au niveau national. Dans les quartiers de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, le McDonald's de Sainte-Marthe est devenu une plateforme de distribution essentielle et est forcé d'être ultra efficace pour distribuer pas moins de 700 colis par semaine et en livrer 170.
Le McDonald's de Sainte-Marthe, c'est pas exactement parce que McDonald's a pris une décision sympa, c'est parce que les salariés font un truc de dingue là-bas.
Voilà, oui, c'est plus du tout un McDonald's depuis maintenant un an. Et c'est plutôt une asso humanitaire qui a l'air de bien tourner, 700 colis par semaine quand même. Alors, autre signe de paupérisation, les départements voient arriver de nouveaux demandeurs de revenus de solidarité active, le RSA, en moyenne plus 10% sur l'ensemble du pays. Tous les types de territoires sont touchés, ruraux, urbains, des grandes villes, des petites villes. Et c'est une crise sanitaire qui a aussi accéléré brutalement la crise économique, donc la pauvreté. Et pour y faire face, les associations se retrouvent sans moyens, avec des stocks qui fondent, des bénévoles épuisés, et qui ne peuvent que demander inlassablement la création d'un revenu minimal garanti accordé au moins à 18 ans, contre 25 ans aujourd'hui. Mais c'est une urgence sociale qui ne rentre pas dans le plan d'urgence à 100 milliards du gouvernement et qui ne prétend pas s'adresser à ces 10 millions de personnes pauvres en France.
Canu Info.
Alors, vous avez certainement entendu parler, là on va pas être complètement à la pointe de l'actualité, mais vous avez certainement entendu parler de ces embrouilles entre le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et les magistrats. Quand on dit les magistrats, c'est les juges et les procureurs, comme on va mieux nous expliquer dans une seconde. Nous, on avait pensé à en parler, mais moi, en tout cas, j'ai eu un peu peur de dire des bêtises. Et de fait, on dirait que j'en aurais dites. Mais du coup, on a préféré...
C'est bien la première fois que ça t'arrive d'avoir peur de dire des conneries, toi.
Ouais, c'est vrai, souvent je décide de parler quand même. Là, exceptionnellement, j'ai eu un surmoi qui s'est trouvé là.
Et, un sursaut d'honnêteté.
C'est ça, un sursaut d'honnêteté.
Ouais, t'avais quelqu'un sous la main pour t'aider.
Bon,
quoi.
Par ailleurs, j'avais quelqu'un sous la main, quelqu'un qui, disons, plus que nous dans le studio, arpente parfois des couloirs de palais de justice et qui comprend un peu mieux ce qui s'y passe, à qui j'ai demandé de nous réexpliquer toute cette embrouille.
Ces dernières semaines, on a vu des manifestations de juges, ce qui n'est pas hyper courant. On a vu, ce qui est peut-être encore moins courant, une déclaration commune de l'Union syndicale des magistrats et du syndicat de la magistrature, qui ne sont pas exactement sur les mêmes bases politiques et les mêmes combats la plupart du temps. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi tous ces gens-là ne sont pas contents ?
Tous ces gens-là, c'est les juges, les magistrats, les procureurs. Il y a eu aussi un communiqué commun du président de la Cour de cassation et du procureur général à la Cour de cassation. C'est vraiment les deux plus grosses têtes du monde judiciaire en France, contre le garde des Sceaux, contre Éric Dupond-Moretti. Pourquoi ? Bah, en fait, je crois que pour plein de raisons différentes... Mais surtout ces histoires d'enquête contre certains magistrats du parquet national financier. Mais en fait, déjà, à la base, tous ces gens-là détestent absolument Éric Dupond-Moretti et voulaient absolument pas un avocat, et encore moins lui, comme garde des Sceaux. Quand, du moment où il a été annoncé, en fait, avant bon, que les affaires commencent, à la Cour de cassation et tout ça, en fait, tout le monde voulait le faire sauter, quoi. Voilà, mais parce que lui, quand même, il rentre dans les magistrats de manière super sévère dans ses plaidoiries, dans les procès et aussi dans les médias. Et mais il a fait des saillies où eux, ça passe pas, quoi. Et Dupond-Moretti, là, il s'est retrouvé dans un conflit d'intérêts énorme. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, c'était cette affaire de Nicolas Sarkozy et alias Paul Bismuth qui est mis en cause pour le financement de la campagne électorale, je pense une présidentielle, financement par le régime libyen, entre autres. Alors là-dessus, il y avait eu une enquête qui avait démarré. Et donc, qui c'est qui s'occupe ce genre d'enquête? C'est le parquet national financier. Qui, donc c'est pas des juges, juste c'est des magistrats, c'est-à-dire c'est des procureurs, quoi. C'est quand même des gens qu'on aime pas d'habitude, encore moins que les juges quand on est en audience. C'est ceux qui requièrent les peines et qui chargent les prévenus et qui mènent les enquêtes.
Mais ceux du PNF chargent des prévenus qui sont pas tout à fait le public des comparutions immédiates, par exemple.
Par exemple, c'est plutôt on tape dans les chefs d'entreprise, dans les malversations financières au niveau soit de l'État, soit des collectivités territoriales et surtout en fait des énormes boîtes. Le parquet national financier, il a été créé sous Hollande et on entend quand même dire quand, du côté de la haute bourgeoisie que c'est une police politique parce qu'elle attaque essentiellement aux riches. On les entend jamais dire d'ailleurs que l'ensemble du reste de la police judiciaire, c'est une police politique qui s'attaque essentiellement aux pauvres. Mais tu aurais dit qu'en fait le parquet national financier, ça, il tape sur... Il essaye en tout cas de taper sur les grandes entreprises et les détournements, les histoires de corruption, le trafic d'influence et tout ça.
D'accord, et donc c'est eux en particulier qui ont été visés sur ce coup-là, en tout cas par Dupond-Moretti.
Ouais, parce que le PNF, ça a été créé pour ça, pour la grande délinquance financière. C'est à Paris, c'est quelques procureurs, je ne sais pas combien ils sont, mais ils ne sont pas super nombreux. Évidemment, c'est eux qu'on va essayer, à qui on va essayer de confier une enquête de trafic d'influence avec un régime libyen étranger sur une campagne présidentielle.
Et là, alors qu'est-ce que Dupond-Moretti leur reproche?
Il y a eu un moment au cours de l'enquête du parquet national financier sur le financement de l'élection présidentielle. Au cours de cette enquête, les procureurs au PNF se sont rendus compte qu'il y avait une taupe, quoi, en fait, que Sarkozy et son avocat étaient au courant d'informations qui normalement n'étaient pas publiques, étaient confidentielles et en fait, ils devaient absolument pas être au courant. Du coup, le PNF a cherché la taupe, quoi. Et là, quand ils cherchent la taupe, on parle quand même du milieu des hommes politiques de Paris, des grands avocats parisiens, ils se sont mis à éplucher les factures téléphoniques de Thierry Herzog, ce qu'on appelle les fadettes, c'est-à-dire tous les numéros entrant, sortant du téléphone, tous les SMS pareil, entrant, sortant du téléphone, et à éplucher pas seulement celles de Thierry Herzog, mais de taper large dans son carnet d'adresses, et du coup de taper large de je sais pas combien d'avocats, de grands avocats de la place parisienne.
Ouais.
Bon, Éric Dupond-Moretti. Mmh. Il est un peu la mort. Il est un peu la mort parce qu'en tant qu'avocat, il s'attend absolument pas à ce que des procureurs, de manière occulte, secrète comme ça, se mettent à éplucher ses factures téléphoniques. Et ce d'autant plus que, on ne sait pas, ça se trouve, il avait des éléments contre Thierry Herzog pour justifier ça, mais contre l'ensemble de son carnet d'adresses et des avocats qui sont quand même un secret des avocats qui est assez fort, et une garantie quand même pour la défense. En fait, de se mettre à éplucher les factures téléphoniques de plein de grands avocats de la place parisienne, ça la fout super mal, quoi.
Pour cette affaire, la garde des Sceaux précédente avait demandé une enquête, un rapport.
Ouais, parce que quand c'était dans les médias, ça se trouve c'est Mediapart qui avait sorti cette affaire des fadettes, le pillage de factures téléphoniques, ça avait fait un énorme scandale, tous les avocats étaient montés au créneau, et vraiment super largement, en fait, pas seulement les 4-5 visés et grands avocats de la place, là, mais ça faisait un précédent qui est en fait super grave pour la défense, parce que si on peut se mettre à éplucher les factures de n'importe quel avocat, en fait, quand ça va tomber sur toutes les petites affaires et tous les trucs, il n'y a plus de secret de la défense, quoi. et c'est grave. Du coup, à ce moment-là, tout le monde était monté au créneau et Belloubet, Nicole Belloubet, en tant que ministre, avait demandé déjà au Conseil supérieur de la magistrature de faire une enquête sur les pratiques du parquet national financier en disant est-ce qu'ils ont enfreint des règles ou pas.
Et là, le rapport est arrivé il y a quelques semaines, concluant qu'ils n'avaient pas enfreint des règles.
Ils n'avaient pas enfreint des règles, que tout allait bien. Juste l'enquête avait été un peu trop longue, mais à part ça, tout va bien. Et de fait, légalement, il n'y a rien qui protège les avocats de quiconque d'autre sur cette histoire de facture téléphonique. En fait, légalement, il n'y avait rien. Quoi. C'est juste... le problème des enquêtes préliminaires en général en France, qui sont pourtant occultes, secrètes, personne n'a accès au dossier et les preuves font absolument ce qu'ils veulent. Du coup, voilà, il y a des règles particulières pour les perquisitions chez les avocats, par exemple. Mais sur le reste, non. Ou sur les écoutes téléphoniques aussi. Mais là, ils n'ont pas écouté, ils ont juste épluché les papiers. Alors, le rapport dit non, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Mais Dupond-Moretti, qui lui-même était visé par le parquet national financier, il décide tout seul, du coup, en tant que ministre, ce coup-ci, de demander au Conseil supérieur de la magistrature, qui est le truc qui chapeaute un peu les magistrats, et notamment qui peut prendre des sanctions disciplinaires, il demande à ce conseil-là une enquête préliminaire sur trois procureurs du parquet national financier. Donc, lui, il est en situation totale de conflit d'intérêts, quoi. Il a été visé par des trucs que lui trouve dégueulasses et par vengeance ou par mesure de rétorsion, il provoque lui-même une enquête. Et il est jugé parti. Et les juges, de fait, ils n'aiment pas ça parce que, déjà, ils sont très jaloux de leur indépendance du fait que le pouvoir politique ne s'ingère pas dans les affaires des juges. Et c'est aussi une garantie pour tout le monde que les juges sont indépendants.
Mmh.
Quand on dit ça, bien sûr, on pense aux juges qui jugent. Mais en fait, les procureurs, ça devrait être important aussi pour tout le monde. Sauf qu'en fait, les procureurs, ils sont quand même sous les ordres du ministre de la Justice. Alors, c'est quand même c'est absolument pas d'indépendance. Et ce qui est super malsain, c'est qu'en fait, dans une évolution de carrière, ces magistrats-là, c'est tous des magistrats, ils sont un coup juge, un coup proc, un coup juge, un coup proc. Du coup, en fait, ça fait un petit milieu comme ça où, mine de rien, de l'extérieur, on a peur que tout le monde se tienne, quoi. Et que tout le monde se tienne, ok, c'est une chose, mais d'un autre côté, c'est... quand même hyper scandaleux et hyper dangereux si les gardes des Sceaux prenaient l'habitude de s'ingérer et de demander des enquêtes, demander des sanctions.
Radio Canu 102.2,
la plus rebelle des radios.
Eh bien, on va rester dans le domaine de la justice, et cette fois-ci au niveau européen, puisque c'est la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, qui vient de rendre une décision en matière de surveillance. Alors, depuis près de 15 ans, l'État français imposait aux fournisseurs d'accès à Internet, le fournisseur d'accès à Internet, vous savez, c'est la personne qui vous fournit une box pour vous y Internet, et de téléphonie, de conserver les données de connexion de l'ensemble de la population. En gros, qui parle à qui, quand et où. Ça dit pas, pardon, c'est quand même pour relativiser, enfin, en tout cas pour pas faire un truc de parano excessive, en tout cas fausse, ça dit pas ce que vous dites dans vos mails, par exemple. C'est par exemple si vous postez sur un forum quelque chose ou sur un réseau social, et ben les fournisseurs d'accès sont censés pouvoir dire, et ben c'est telle adresse IP, du coup telle personne qui a posté à tel moment tel truc. Contestation porte cette contestation devant la Cour de justice de l'Union européenne et portée notamment par la Quadrature du Net, on en parle régulièrement sur cette antenne, qui s'acharne bec et ongle à défendre nos libertés en matière de numérique. Il s'agit de l'aveu de la Quadrature d'une défaite victorieuse. Victorieuse car la Cour affirme que la France ne peut plus imposer cette conservation généralisée des données de connexion. Défaite car elle offre un régime d'exception beaucoup trop important pour garantir notre liberté. C'est-à-dire qu'elle va dire, vous n'avez pas le droit, mais c'est vrai que dans tel cas, ou tel cas, ou tel cas, ou tel cas, vous avez le droit. Mais c'est quand même une sacrée victoire dans le sens où le principe qui prévalait en France pour qui vous disait que pour le trafic internet qui était en grande partie donc des données de connexion, et ben voilà, en tout cas la France a plus le droit de garder ça et de pouvoir piocher dedans pour tout et n'importe quoi sans avoir à justifier grand chose. Et ben en tout cas ce principe est mis à mal. Par exemple, si l'État peut toujours obliger les fournisseurs d'accès internet à conserver les adresses IP de toute la population, ces adresses ne peuvent plus être utilisées dans le cadre d'enquêtes sur la criminalité grave ou dans les affaires de sécurité nationale. Donc là, on sait qu'on parle de terrorisme. Autre victoire importante, les hébergeurs de sites web ne peuvent plus être contraints par la loi à surveiller pour le compte de l'État l'ensemble de leurs utilisateurs, c'est-à-dire en gardant en mémoire qui publie quoi, avec quelle adresse IP et quand. Alors ça, c'est quand même un sacré changement et je me demande comment il va être adapté en France, que ça faisait hyper longtemps, avant même ces histoires de fournisseurs qui étaient censés conserver tout ça. Ça faisait assez longtemps que quand on hébergeait un site, on était obligé de garder les adresses IP, par exemple, des gens qui mettent sur un forum, pour voir l'exemple le plus simple, ou qui publient, par exemple, sur un blog d'actualité, si des gens publient tout ça. Le droit français se retrouve donc en contradiction flagrante avec la décision de la CJUE. Le principe de conversation généralisée est refusé par la Cour alors qu'il est la règle en droit français. Alors, la Quadrature du Net précise qu'elle va éplucher les 85 pages de l'arrêté de la Cour en question pour voir exactement ce qu'il est possible de faire, et on l'imagine assez facilement attaquer l'État en justice s'il se retrouve en défaut par rapport à la Cour européenne.
Canu Info. Du mercredi.
Et toujours l'Europe, tiens, le Parlement européen a voté aujourd'hui, enfin je sais pas quand ils ont voté d'ailleurs, mais ils ont voté il y a pas un an, dans la nuit, un objectif de réduction d'au moins 60% des gaz à effet de serre d'ici 2030.
Waouh.
Ça, c'est de l'engagement. Hein.
Mais oui, 60% c'est quand même sacrément balèze. Hein.
2030 alors, aussi.
Et oui, on va y revenir. L'amendement a été adopté tard dans la nuit par les eurodéputés réunis en séance plénière à Bruxelles par 352 voix favorables, 326 contre et 18 abstentions.
Wow.
Alors on se demande quand même bien qui sont les députés qui ont voté contre. Ça doit être certainement celles et ceux qui font vraiment tout un cinéma anti-écolo, ceux et celles qui comptent vraiment sur le vote climato-sceptique, parce qu'on voit vraiment pas pourquoi les autres. Que ça soit des communistes au pro-business, des faf au sosdem, de n'importe qui à n'importe quoi, pourquoi qui que ce soit trouverait que c'est un problème de voter pour des objectifs pour 2030 parce que les objectifs à long terme, qu'est-ce que c'est? Alors on se souvient par exemple de la COP21, dont le résultat, alors attention, hein, longuement et âprement disputé, méga salué à la fin du truc. Le résultat, c'était une sorte d'engagement collectif à limiter la hausse de la température globale d'ici la fin du siècle à 2 degrés. Oh là là, là, tout le monde allait se donner à fond la caisse. C'était en 2015. 5 ans après, alors l'ONU estimait en janvier que les températures pourraient monter de 5 degrés d'ici la fin du siècle. Le CNRS parlait il y a 3 semaines de possibilité qu'on arrive à 7 degrés. Alors d'autres parlent de moins, personne n'est sûr complètement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a plus personne du tout dans les gens qui se penchent un peu sérieusement sur l'affaire qui croit à cette histoire de 2 degrés. Tout le monde mise au-dessus, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Quant aux mesures mises en place par les différents gouvernements européens ou autres, mais entre autres européens, en particulier français, tiens, ces mesures, c'est entre presque rien et exactement rien. Quand en France, par exemple, Macron crée une commission citoyenne pour étudier le climat, blablabla, il compte un peu que les gens, comme de toute façon les gens c'est juste des gens, ils voudront surtout pas qu'on change leur mode de vie. Mais la commission citoyenne, les gens sont mis sérieusement au boulot, puis ils ont trouvé que ça valait peut-être quand même le coup de changer des modes de vie. Et ils proposent alors une petite série de mesures, tout ça, mais par exemple dedans ils disent ah, il faudrait peut-être réduire la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h max. Mais là, je ne sais pas si vous vous rappelez, le jour où ils ont dit ça, ça a été un tollé, mais tellement général. Le monde entier s'est immédiatement accordé pour dire que c'était impossible, invivable, insupportable. Macron, avant même de renoncer au reste de ce qu'a dit la commission citoyenne, avait immédiatement déclaré qu'il était hors de question d'envisager ça. Et là, toute l'opinion française avait soufflé de soulagement, parce que quand même, 110 km/h, monde. Alors c'est vrai que ça nous aurait fait certainement, parce qu'à 110 km/h, juste, on consomme quand même notablement moins qu'à 130. Et du coup, on crame moins d'essence, on émet moins de gaz à effet de serre. Mais c'est vrai que on aurait pu arriver mettre 10 minutes de plus sur un trajet de centaines de kilomètres, tout ça, ça aurait été hyper insupportable. Bon voilà, c'est juste un tout petit exemple de.
Mais Macron, il avait même justifié son choix d'écarter cette proposition en disant en fait, ça va créer un point de crispation. Du coup, ça je l'écarte, mais c'est pour accepter tout le reste.
C'est pour accepter tout le reste. Entre-temps, non. Hein, ah, on se rappelle. Mais
et après il y a eu la crise du Covid.
C'est ça. Alors voilà, cette histoire c'est juste un micro-exemple. Hein. Ce qui est certain, c'est que voter un engagement de résultat pour dans longtemps, mais ne absolument rien décider comme moyen d'arriver à ce résultat, mais alors c'est quand même vraiment juste faire des promesses dans le vent, des promesses de que dalle. Voilà, nous on le décide tout de suite, dans 1000 ans ça sera le paradis, mais alors pour y arriver, il y a une seule chose à faire, c'est ne rien changer, surtout ne rien changer. Dans l'immédiat, c'est l'article de je sais plus où qui nous dit ça. Le vote des députés est, ouvrez les guillemets, puisque c'est une citation de l'eurodéputé Jutta Gutland, social-démocrate. Le vote des députés est historique, un signal extrêmement fort face aux négociations de l'automne.
Ben c'est bien ça, c'est un signal, hein. C'est tout ce que c'est.
C'est un signal et rien d'autre. Et donc, Jutta Gutland. La rapporteuse de la loi climat appelle quand même à rester prudente devant le vote final, parce que si ça se trouve, les eurodéputés vont même pas finir par être complètement entièrement d'accord pour cet objectif d'au moins 60%. Ils vont peut-être négocier à 57, ou alors ils seront méga écolo, ils arriveront à 62. Bon, allez savoir. C'est donc 50-60, c'est la réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030.
Canu Info. Du mercredi.
Kapene alan tari India, vale muravgan tut, frayeri kergan tut, kostumi kravata isi tut, jadik tu ki aina, sarveshe nosheya, kapene alan tari India. Olamotu, aveya kere, ire una cravata ai situt jadi tu ki aina sarveshe noshya kapene alantari india palle muravyan tut frayer khergan tu costume cravata ai situt jadi tu ki aina sarveshe noshya kapene alantari india Noshea kapene alantari india parle muravyan tut.
Et c'était John Sever qui nous chantait une chanson dont j'ai oublié le titre, mais
la chanson c'est je prononce très mal Goltari Rom Issima.
Et voilà, et John Sever, une chanteuse de Choutka, le quartier rom de Skopje en Macédoine, et la langue chantée c'était donc du rom.
Et c'est à toi.
Ah, c'est à nouveau à moi, pardon. Dites donc. Voilà, c'est figurez-vous que le site Nantes Révolté, sur lequel personne n'a rien foutu pendant des mois et des mois, ça y est, ils ont enfin repris du service et on les adore parce que souvent, il n'y a qu'à faire des copier-coller.
Ils sont présents sur Facebook. Hein.
Ouais, mais pas sur le site. Ah, et surtout maintenant, ils ont sorti une version papier.
On en est au 4e numéro, je crois bien.
Mais à Lyon, on la trouve à la librairie Terre des Livres.
Par exemple.
Par exemple, mais je me demande si c'est même pas...
Le seul endroit ? Oh, je sais pas.
Ouais, bon, bref. Toujours est-il que c'est ce que je vais vous raconter maintenant est tiré de leur site. Et d'abord, on a une petite vidéo qui nous montre une manif des Gilets jaunes le 3 octobre dernier, c'est-à-dire quoi, samedi dernier, à Paris. Et sur cette vidéo, on voit clairement des gendarmes en tenue de maintien de l'ordre, c'est-à-dire qui ressemblent à des CRS, protéger trois ou quatre affiches, grandes affiches de Macron. Enfin, où on voit comme ça Macron, et sur lesquels c'est écrit « Ensemble, nous réussirons ».
Ils ont raison de les protéger, parce que c'est le genre d'affiche qui ne resterait pas très longtemps.
Qui ne resterait pas très longtemps, puis de toute façon, les Gilets jaunes, en plus, ils ont envie d'aller se faire les affiches, mais là, les flics sont là, non, ils les empêchent. Alors, ce qui est quand même rigolo, c'est que ces affiches sont collées de manière complètement illégale, sur des supports complètement non autorisés. En pleine crise de mégalomanie, le pouvoir a chargé une entreprise privée de coller 200 000 affiches. Avec ce slogan « Ensemble, nous réussirons » et le portrait de Macron, comme ça. Les 200 000 affiches, uniquement dans la capitale, hein, à Paris. Et c'est beaucoup, 200 000 affiches. Alors, l'entreprise privée,
et
ma foi...
Et c'est quand même juste uniquement dans la capitale.
Ouais, bah oui, bien sûr. Dire, la start-up nation, c'est quand même surtout à Paris, plus que dans les territoires, comme on dit de nos jours.
Ça fait une affiche par rue, à peu près, non ?
Ouais, c'est ça. Ouais, on va pas non plus râler de ne pas avoir eu ces affiches.
Non, non, c'est pas très grave. Mais toujours est-il que pour trouver de la place pour ces 200 000 affiches, bah, ma foi, l'entreprise qui devait les coller, elle n'a rien négligé. Monument historique, rideau de fer, boîte aux lettres, mur privé, placard EDF, tout y est passé. Alors, pour rappel, nous dit toujours Nantes Révolté, un simple tag en manifestation peut conduire à des gardes à vue et de grosses amendes. Par ailleurs, ces derniers mois, des personnes ont été violentées par les forces de l'ordre pour avoir peut-être collé des affiches contre les violences faites aux femmes, par exemple. D'autres se sont vus infliger des amendes pour cette raison également. Alors voilà, non seulement ce gouvernement est réduit à payer une entreprise pour faire sa propagande, hein, parce que c'est pas des militants qui vont le faire vu qu'il n'y en a pas. Non seulement il commet des dégradations à grande échelle et sans aucune retenue, mais en plus ces collages illégaux sont protégés par la police, toujours avec l'argent public.
Pardon, pas plus tard qu'il y a quelques semaines où à Toulouse, il y a des gens qui ont été condamnés à 2 mois de prison ferme
pour
des tags et des affiches et des pochoirs.
Tout à fait. Nantes Révolté conclut en disant « On touche le fond, mais on creuse encore. »
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Le sans-papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. C'est que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine à expulser.
Il faut que ça se sache.
Waouh, double générique. Alors, eh bien, tac. Oui, alors, on va aller du côté de la vallée de la Roya et on va parler de la tempête Alex. Et bien sûr, si elle se retrouve dans cette rubrique, c'est pas pour rien. Alors bon, la tempête Alex, vous avez suivi cette tempête qui a traversé la France et une partie de l'Italie, du coup. Et si on en a beaucoup entendu parler sur les dégâts désastreux que ça a créé dans la vallée de la Roya, on a peu entendu sur la partie des migrants. Et pourtant, dans cette vallée, on en a souvent parlé, et c'est une vallée qui est beaucoup empruntée par les migrants pour passer de l'Italie à la France. En tout cas, beaucoup s'inquiètent du sort de migrants qui seraient passés sous les radars des recherches, car peu ou personne ne sait qu'ils sont là, et ça inquiète grandement. Si aucun signalement de disparition n'a été donné, vu comment les migrants dorment et passent dans cette zone pour traverser, il est quand même fort probable que certains aient été emportés par les eaux. C'est en tout cas ce que disent les associations présentes sur place. Du côté italien, à Ventimiglia, ville où la plupart des personnes tentent la traversée pour passer en France, c'est-à-dire que les gens arrivent dans la ville de Ventimiglia, dorment sur place et passent la frontière pour par la vallée de la Roya, donc qui est commune entre l'Italie et la France. Cette ville a également été touchée par la tempête. D'ordinaire, entre 100 et 200 personnes en transit dorment là où ils peuvent avant de tenter la traversée. Il y a en juillet un camp de transit qui était tenu par la Croix-Rouge qui a été démantelé, qui a été fermé, expulsé, tout ça, en juillet. Donc depuis ça, c'est un peu la grosse misère pour les gens. Depuis la tempête, leur situation s'est bien entendu encore plus dégradée. Les associations n'arrivent pas à faire face à la demande primaire, par exemple, de couverture et de manteaux. Là-bas, ils reçoivent des coups de fil en permanence de la part des migrants pour dire, en fait, juste, on a froid, on n'arrive pas à se réchauffer et tout. Faute de place dans la gare, 160 personnes ont dû dormir dehors. C'est-à-dire que la gare, à un moment, a servi un peu d'abri. Il y a eu une famille et une femme avec un enfant qui avait été hébergé entre guillemets dans la gare de Ventimiglia, gare qui depuis a été interdite d'accès par la préfecture. Voilà, donc en tout cas les associations vont essayer de veiller un peu sur si des personnes qui y seront retrouvées. On vous tiendra au courant si malheureusement c'est le cas.
Il faut que ça se sache.
Et donc on va vous donner maintenant des nouvelles du Collège Sans Frontières, pas des très bonnes nouvelles en fait, du Collège Sans Frontières Maurice Sève à Lyon, qui est, on peut le rappeler, un squat de la Croix-Rousse, un ancien collège désaffecté depuis 2013 qui a été réquisitionné afin d'abriter des jeunes mineurs isolés qui dormaient dans la rue, ça c'était au cours de l'été 2018. Donc le 24 septembre 2019, il y a un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, la justice avait laissé un délai d'un an avant que l'expulsion ne puisse être ordonnée. Et puis début septembre cette année, début septembre 2020, les élus de la métropole annonçaient aux membres du collectif que l'expulsion n'aurait pas lieu. Donc bonne nouvelle. Et puis finalement le vent a tourné et je vous lis le communiqué qu'ils ont édité aujourd'hui suite à des actions policières qui ont lieu hier. Donc je vous lis. Samedi 26 septembre, deux jours après la date fixée par le jugement d'expulsion du lieu, un huissier est venu signifier un commandement de quitter les lieux aux habitants du Collège Sans Frontières Maurice Sève. Mardi 6 octobre, la police est intervenue sur le site. Une dizaine de fourgons, avec des policiers casqués, armés, munis de boucliers, accompagnés de chiens, de policiers en civil, maniant un drone, avec un hélicoptère et le concours de la police aux frontières et le soutien de la police municipale. Nous, habitants et soutiens, sommes très choqués par un tel déploiement de force totalement disproportionné, la raison évoquée étant un recensement des habitants et un contrôle de leur identité. D'autant que plusieurs diagnostics sociaux ont été réalisés sur place, notamment un diligenté par la préfecture du Rhône et un très récemment à l'initiative de la métropole de Lyon. Les institutions connaissent donc la population présente. Nous sommes très choqués car nous n'avons jamais rompu le dialogue avec les institutions, dont la préfecture, via des médiateurs. Nous sommes d'autant plus choqués que nous sommes depuis plusieurs semaines en discussion avec la métropole et la ville de Lyon afin de trouver des solutions d'hébergement dignes pour tous les habitants, ceci conformément aux engagements pris par les candidats et candidates pendant les élections municipales. Il nous avait été garanti qu'il n'y aurait aucune intervention policière sans concertation. Nous attendons de la métropole une clarification sur sa responsabilité dans cette opération policière psychologiquement violente, accompagnée d'insultes racistes de la part de certains policiers et de mesures d'intimidation qui ont semé la peur et l'angoisse chez des jeunes gens. En effet, selon la presse, la demande de concours de la force publique, c'est-à-dire une demande d'expulsion émanant de la métropole, ce qui confirme également les services du Grand Lyon, une réunion se serait tenue très récemment à une date non divulguée entre le maire de Lyon, le président de la métropole et le préfet à ce sujet. Nous attendons de la métropole et de la ville de Lyon une présentation rapide des solutions de relogement qu'ils préconisent, ainsi que des conditions de leur mise en œuvre pour rétablir un climat de confiance et de sérénité, aujourd'hui mis à mal. Cette intrusion violente s'intègre parfaitement dans le durcissement des politiques d'accueil des migrants et donne un signal inquiétant aux autres squats de Lyon. Nous invitons les voisins et voisines du collège, les soutiens du quartier, les associations, les partenaires à rester vigilants et vigilantes et à se mobiliser pour faire respecter les engagements pris. Voilà, et c'est signé le collectif soutien Migrants Croix-Rousse et le collège Sans Frontières Maurice Sève.
Il faut que ça se sache.
Et il est 19h52 et ce Canu Info touche à sa fin.
Et oui. Alors, à la semaine prochaine.
Oui, alors c'est pas sûr que vous ayez idées noires parce que nous les voyons pas derrière notre bocal. Et en général, ils sont là à cette heure-ci. Mais bon, dans le doute, vous les retrouverez peut-être à 20h. Et
sinon, ce sera les bandes continues.
Ouais, c'est, dans tous les cas, là, ça va être les bandes continues pendant 8 minutes.
Minimum.
Et peut-être pendant 1h08.
En tout cas, merci
c'est bien, mais bon,
de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.